La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous. La justice à l'œil, le droit et le cinéma, le plaisir d'accueillir deux nouvelles étudiantes de l'Université Paris 2 par Panthéon Assas, étudiantes de Diana Villegas, avec laquelle elles ont l'an passé, dans un groupe mixte, me semble-t-il, travaillé autour du film de Richard Fleischer, Soleil vert, Soylent Green. Il s'agit de Lucie Duquesne et Isabelle Fiani. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous, ce choix du film, il s'est imposé à vous, naturellement, ou c'est le troisième larron du groupe qui vous l'a imposé? Comment s'est passé ce choix?
Ça a été une proposition du troisième membre de notre groupe, donc Galiléo Bajar. Mais le choix nous a semblé évident, dans la mesure où c'est un enjeu qui est actuel, mais que le film est assez ancien. Il a été diffusé en 1973. Pour qu'on ait le recul nécessaire aujourd'hui pour voir ce qui s'est actuellement passé de ce qui avait été anticipé et les progrès justement qui nous restent à faire par rapport à ce qui avait déjà été critiqué il y a 50 ans. Ce qui nous a paru intéressant, c'est que le film se déroule en 2022. Et donc c'était intéressant pour nous de se replacer au moment de ce qui avait été imaginé par les auteurs. Mmh.
Donc, convaincu par ce film, très bien. Eh bien, nous allons écouter un extrait relativement long avec le personnage de Sol Roth, qui est interprété par Edward J. Robinson et dont c'est le dernier rôle au cinéma, puisqu'il va décéder quelque temps ensuite.
Fortunate that you missed the overture.
I want to see him.
That is absolutely prohibited during the ceremony.
But I can assure you, open that damn thing right now, or I swear to God you'll die before he does.
All right.
I love you, sir.
you see it?
Yes.
Isn't it beautiful?
Oh, yes.
I told you.
How could I know? How could I ever imagine?
Cet extrait est intéressant parce qu'il est à mettre en relation et en regard avec le dernier extrait que nous avons écouté dans le premier épisode consacré à Soleil Vert avec un de vos camarades précédents. On est avec une idée de, me semble-t-il, de transmission entre le vieux Sol et l'inspecteur, qui n'est pas si jeune que ça, mais enfin qui est plus jeune que lui, l'inspecteur Sorn, donc interprété lui par Charlton Heston. Est-ce que vous pouvez présenter la scène ?
Oui, alors il me semble que Sol est allongé face à une grande
un grand écran
sur lequel défile c'est très lumineux dans mon souvenir et c'est il y a beaucoup d'images de la nature, du vent, des éléments et on voit absolument pas les hommes qui apparaissent et donc ça rappelle l'introduction et ça contraste radicalement avec l'introduction du film et ça nous permet de voir tout ce que le personnage de l'inspecteur a manqué. Et en fait, tout ce qu'il y a de beau sur cette planète et qui a été éradiqué par la trop grande industrialisation.
Oui, et du coup, ça contraste avec la première scène, comme tu as dit, le pré-générique, où on voit que dès qu'il y a une intervention de l'être humain, c'est dans l'excès et ça mène à toutes les dérives qui sont justement dénoncées dans ce film. Et il y a une transmission, comme vous avez dit, notamment du secret de toute l'intrigue du film Soleil Vert, qui est que Sol a appris à l'échange, ce qui est appelé l'échange, qui est une librairie où sont conservés les derniers manuels, livres et ressources intellectuelles et culturelles. Il apprend que justement les rations alimentaires Soleil Vert sont faites à partir de restes de dépouilles humaines et il transmet ce secret-là au détective Thorne qui va ensuite faire en sorte de révéler le secret et essayer de le diffuser plus largement à la population.
Mmh. Alors, il y a le secret, effectivement, comme vous le dites, le secret de l'enquête. Donc, pourquoi il y a eu un assassinat ? Puisqu'il y a eu un assassinat. Hein, le personnage de Simonson, oui, a été assassiné, ce qui explique que l'enquête est menée par l'inspecteur Thorne, malgré toutes les embûches de sa hiérarchie pour ne pas aller jusqu'au bout. Et donc là, première révélation, c'est la révélation in fine par Sol de cette corruption hein, et de comment on est en train de nourrir la population. Enfin, c'est du cannibalisme, hein, organisé, industrialisé, mais c'est du cannibalisme. Et une autre révélation, c'est la première dont vous avez parlé, cette idée de transmission. Qu'est-ce qui lui est révélé précisément ?
Que c'est justement l'intervention des humains qui a mené à toutes les dérives, à la crise climatique.
À la crise climatique et à la destruction de la nature. Parce que là, on a, si vous vous souvenez, dans cet extrait, on a quand même des séquences qui nous sont projetées avec des images idylliques. La mer, la montagne, la campagne, la forêt, enfin, les séquences sont plus belles les unes que les autres.
Oui, ça fait rêver. Et puis même nous qui l'avons connu, qui le connaissons au quotidien, j'ai du mal à croire que ça corresponde vraiment à la réalité, en fait. C'est très fantasmé. C'est une nature vraiment très fantasmée. Et puis c'est d'autant plus impressionnant que pendant une heure et demie, tout est jaune, tout est sale, tout est chaud. Donc le contraste est vraiment très intéressant dans cette scène-là.
Oui, d'un point de vue couleur, effectivement, on est dans une ambiance qui est sale.
Ah oui, oui, oui. Hein,
on a l'impression de suie qui est déposée en permanence.
Oui, c'est assez réussi parce il me semble qu'ils avaient utilisé un filtre sur les caméras, qu'ils avaient apposé à même la caméra un filtre orangé pour donner cette couleur, cette sensation de chaleur, de moiteur. Et c'est d'autant plus impressionnant à l'intérieur. Surtout au commissariat où on sent cette tension permanente qui est liée à la chaleur et qu'on comprend très bien et qui est très bien retranscrite aussi par le fait qu'ils aient tous en permanence un petit tissu pour s'éponger le front.
Tout à fait. Oui, oui. Dans cette séquence-là, tout en musique et en très peu d'échanges, donc si nous la décrivons, le vieux sol est placé où ?
Il est placé au centre et il est allongé et en fait il va s'éteindre et transmettre le flambeau, la révélation et puis redevenir poussière.
Oui, redevenir poussière, mais est-ce que c'est un établissement spécialisé ? C'est un choix de sa part ?
Oui, c'est un choix de sa part. Donc il y a également ici une question qui est très actuelle, qui est bioéthique,
en France,
de l'euthanasie en France, effectivement. Et c'est un choix de sa part, il y va volontairement et c'est une pratique qui est encouragée dans la société du film parce que justement c'est dans leur intérêt pour essayer de lutter contre la surpopulation. Et c'est une pratique qui est donc encouragée et ils y sont très bien accueillis. C'est un choix volontaire, on y voit surtout dans la file d'attente, dans la scène où Saul arrive, des malades, des personnes âgées. Qui sont faibles, qui n'arrivent plus à supporter la chaleur ambiante, la pollution et toute cette ambiance très très pesante. Ils y vont par choix, mais c'est quand même très encouragé et très bien présenté par les autorités publiques et les entreprises privées en l'occurrence qui s'en chargent.
Ce qui est très intéressant dans cette scène-là, c'est que d'abord, on a l'impression que c'est propre, qu'on est bien accueilli, en plus c'est climatisé, ce qui n'est pas le cas du reste de la ville, et donc ça en devient un endroit presque agréable, et on pose des questions aux personnes qui viennent y mourir pour essayer d'un petit peu personnaliser la dernière cérémonie, ce qui est assez étrange, puisqu'en fait on va leur enlever la ville et la personnalité, et en même temps on essaie de rendre quelque chose, une dernière fois, une personnalité à la cérémonie. Il y a tout un côté aussi très, très religieux dans les habits, dans le cérémonial qui est assez intriguant en réalité.
Oui, on pense à une secte.
Oui.
Clairement. Clairement. Et vous avez raison, effectivement, l'espace dans lequel, enfin, la grande salle dans laquelle il va vivre ses derniers instants, à la fois il est choyé, mais il a beaucoup d'espace, alors que au quotidien, ils sont obligés de cohabiter tous les deux. Bon, ils sont devenus amis, hein, l'inspecteur et lui, mais c'était visiblement pas un choix au départ de partager un appartement. C'est l'exiguïté des lieux liée à la surpopulation, liée à toutes les pénuries dans lesquelles ils vivent. Hein.
Oui, on comprend pas trop, sinon dans quelle mesure un homme de cet âge-là serait amené à vivre avec un inspecteur de police. Ça n'a pas énormément de sens, et d'ailleurs c'est pas expliqué d'où ils se connaissent, comment ils se sont rencontrés, ça n'a aucune importance. On comprend très bien qu'ils sont liés aussi par la nécessité, et qu'ils ont créé un lien plus important d'amitié, je pense.
Ah oui, 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 une vraie amitié, puisque là il y a une déclaration d'amitié.
Oui, effectivement.
Malgré le contexte. Le personnage de Sorn arrive inopinément pendant que le vieux Saul est allongé sur ce qui va devenir son lit de mort. Comment se passe cette arrivée ? Quelle année l'enjeu ?
Il arrive pour essayer d'éviter la mort de Saul, vu que c'est un ami, c'est une personne qui est chère à ses yeux. Il essaye d'avoir plus d'informations de sa part pour comprendre pourquoi il a décidé d'en arriver là. Et il arrive très brusquement, il enfonce presque la porte, et il menace même la personne qui s'en charge, qui est ici pour superviser, en lui disant qu'il mourra plus vite que Saul s'il ne lui permet pas de regarder la scène, parce que normalement, il y a une sorte de grille qui se ferme et la personne qui supervise ne peut pas voir les images que la personne mourante a décidé de regarder dans ses derniers instants. C'est un moment on les place presque dans une bulle, ils sont tout seuls. Et ça contraste effectivement avec toute la surpopulation
La pollution, la pénurie, etc.
Donc il arrive très brusquement, il menace pour essayer de comprendre le choix de Saul et de essayer de le sauver, mais malheureusement en vain.
Et la façon avec laquelle il regarde, il découvre les images.
Je pense que c'est au début vraiment de... Il est très intrigué et ça se transforme en fascination. Il est scotché par ce qu'il voit. Il a du mal à détourner le regard. Il finit enfin par prendre le micro et poser des questions. Mais il y a d'abord un temps de latence où il comprend pas vraiment ce qu'il voit. Et quand il réalise qu'il s'agit de tout simplement ce qui était l'avant, avant ce monde-là, et ce dont Saul a essayé de lui parler, on le voit dans les scènes à table où il essaie de lui expliquer que c'était comme ça avant, qu'il y avait des aliments. Et en fait, c'est juste une réalisation, encore une preuve là qu'on ne peut plus nier de ce que c'était avant et de ce que les hommes ont fait à cette planète.
Oui, d'un paradis qui a été perdu. Nous sommes ici aussi avec la façon avec laquelle la séquence est mise en scène. On l'a dit dans le premier épisode, nous nous identifions au personnage de l'inspecteur. C'est lui qui porte notre regard. Et donc on découvre à la fois l'intrigue, l'enquête qu'il mène à la suite de l'assassinat, mais également le contexte dans lequel elle se déroule, cette enquête, avec tout le contexte social, politique, humain, etc. Mais là, je trouve que c'est encore plus appuyé, parce qu'on est avec quelqu'un qui est derrière une vitre, en train de regarder son ami, lui-même en train de regarder des images. Mais alors là, l'écran de cinéma, il est XXL.
Oui, on voit clairement la distance qui est mise par rapport justement à ce monde d'avant et au milieu, Saul qui fait le lien entre le monde d'avant, donc les images, lui qui est placé au milieu de la scène et l'inspecteur qui est derrière cette vitre donc, et à qui il passe le flambeau, comme on a pu dire. Mmh. Donc on voit vraiment toute la chaîne entre le monde d'avant et le monde dans lequel l'inspecteur vit. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise l'ampleur des dégâts, si on peut dire. Mmh.
Et en même temps aussi, le monde dans lequel nous vivons et à travers lequel nous regardons le film. Vous disiez, ce sont des images, des vues, des prises de vue de la nature un peu irréelles.
Ah oui, on dirait vraiment un reportage animalier.
Mais oui, un documentaire animalier.
C'est très, très beau.
Environnemental, oui.
Et c'est vraiment très coloré aussi, très apaisant aussi par l'usage de la musique classique qui contraste avec celle utilisée tout au long du film. Et oui, non, on retient vraiment un moment d'apaisement et de beauté de ce visuel. Oui.
Et peut-être aussi, au moment où on découvre cette séquence, une sorte d'alerte. Il y a déjà eu l'alerte avec le pré-générique. Et là, je trouve qu'on a une seconde alerte qui nous dit, nous les voyons encore, pour l'essentiel, ces images, mais jusqu'à quand ? Est-ce qu'on ne va pas un jour se retrouver dans la situation du policier, soit la situation du vieux monsieur qui les a vus dans sa jeunesse, qui ne les voit plus, ou... pour nos enfants ou petits-enfants, situation du policier qui n'a jamais vu un arbre de sa vie.
Oui, tout à fait. Le film tire vraiment une sonnette d'alarme. Il est très précurseur en ça, dans les années en 73. Donc dans les années 70, c'est vraiment le début de la prise de conscience écologique avec le sommet de la Terre à Stockholm, avec le rapport Meadows, avec aussi le début de la conscience des dangers de la surpopulation dans les années 60-70 avec l'époque du baby boom. Et c'est vraiment une alerte qui est donnée aux spectateurs pour se rendre compte de ce qui pourrait advenir si nous n'agissons pas.
Parce que effectivement, on l'a pas dit, mais ce film est issu d'un roman. Lequel roman ? Je vous laisse en parler un petit peu.
Donc c'est le roman Make Room, Make Room qui a été diffusé en 1966 de l'américain Harry Harrison. Il y a une différence notable avec le film, c'est l'enjeu central et principal du film, c'est que dans le roman, il n'y a pas cette anthropophagie industrielle, il n'y a pas tout cet enjeu de cannibalisme. Qui est dépité, c'est surtout sur il est surtout centré autour de la surpopulation, d'où le titre
avec
de la place,
oui,
de la place.
C'est ça, la notion d'espace, de surpopulation, d'encombrement, qui est vraiment bien dépicté dans le film, mais qui n'est pas pour autant l'enjeu central de l'énigme.
Oui, cet aspect de surpopulation est présent, effectivement, mais on est d'abord sur la surexploitation, à la fois des ressources naturelles et puis de l'homme par l'homme, ou de la femme par la femme, enfin ce qu'on veut, mais enfin, de l'être humain par l'être humain. Et on aboutit à ce que, alors, vous l'avez dit, la démarche de Saul est une démarche volontaire, mais il y a une forte incitation, en particulier financière, qui est faite. Et parmi les clients de cette structure d'euthanasie, il y a quand même toute une série de personnes qui sont en mauvaise santé, âgées, etc., etc. Donc on est là avec une entreprise.
Oui, oui, c'est une bande déclopée pour en arriver là. Il s'agit d'être très mal en point, puisque on le voit dans une scène où une mère meurt de faim et abandonne son enfant à l'hospice. Avant, elle préfère mourir de faim là que d'en finir au foyer. Et à nouveau, on retrouve tout ce vocabulaire du feu, des cendres, de transmettre le flambeau qui est assez intéressant.
Oui, ce foyer, vous l'avez dit, en anglais, il s'appelle At Home.
At home, oui, effectivement, on retourne à la maison, on retourne chez soi, et c'est d'autant plus, c'est même plus implicite, c'est un message, vraiment, ils sont très, très encouragés à terminer là et à ce que leur reste soit utilisé à bon escient, en fait.
Voilà, donc là, on est avec un être humain qui est considéré comme une chose.
Ah oui, c'est une réification totale, on voit difficilement comment on pourrait plus rendre objet une personne qu'en l'utilisant pour nourrir, puisque là, rien n'est gâché.
Oui, c'est une exploitation de l'homme par l'homme, comme vous avez dit, de l'humain par l'humain, mais également, et c'est un autre enjeu encore qui est abordé dans le film, de la femme par l'homme.
On va y revenir, effectivement.
Oui, les femmes qui sont totalement réifiées, qui sont considérées, et c'est explicitement dit, comme des meubles. Elles font partie du mobilier de l'appartement.
Tout à fait. Nous allons à ce propos écouter un extrait.
More guards. Detective Thorne, 14th Precinct. Tab Fielding. I was Mr. Simonson's bodyguard. Furniture?
Yes.
Simonson's? Personal or building?
Building.
Where's Simonson? In the living room? Let's go.
Alors, ce nouvel extrait nous présente qui?
Alors, c'est le personnage de Shirl, qui est donc une femme qui, comme on l'a dit, fait partie du mobilier, qui était dans l'appartement du dirigeant de l'entreprise Soylent Green, qui a été assassiné.
Simonson.
Simonson, tout à fait.
Interprété par Joseph Cotten.
Oui, c'est une sorte de femme-enfant-objet. On nous la présente comme douce, délicate, riant. Riant aux larmes, et elle propose de jouer, en fait, pour elle, la vie, sa vie luxueuse est un jeu, et elle parle assez peu dans le film, mais à chaque fois qu'elle parle, c'est pour mettre en valeur l'action d'un autre personnage, elle n'est jamais vraiment actrice de son destin.
Et là, dans cette petite séquence, donc c'est le policier qui vient enquêter et vient découvrir le cadavre de Simonson. Et quand il voit le témoin, donc en l'espèce c'est une témoin, elle répond juste, précisément, je suis, quand il demande aux gardes, c'est le mobilier, voilà, donc elle est le mobilier.
Oui, c'est un très beau mobilier, d'ailleurs elle est là pour ça, c'est impressionnant de voir comment les autres actrices aussi ont été choisies, puisqu'elles sont de toutes origines ethniques, et elles ont des couleurs de peau variées, des textures de cheveux variées. On a l'impression qu'il faut avoir dans son mobilier un bel objet qui fait rêver, qui fait voyager, en fait, comme avoir un tapis, un lion, là, ce serait l'équivalent, en fait.
Tout à fait. Et alors, elle est rattachée à l'immeuble cossu, à la résidence très cossue, dans laquelle un certain nombre d'hommes résident.
Oui, elle fait partie du mobilier, ce serait presque un immeuble par destination. Et
elle fait partie de cet appartement, mais c'est uniquement le cas des appartements très luxueux et des personnes qui sont très aisées, très riches. Et ça contraste avec le reste de la population de la ville de New York qui est entassée, qui ne vivent pas dans ce genre de dans ce luxe et dans ces grands espaces-là avec ce mobilier. Et on voit ici clairement la distinction entre les deux classes sociales et les inégalités que la crise climatique engendre.
Tout à fait, oui, on est même avec des sociétés de caste, puisque elle, on peut même se demander d'où vient-elle ? Est-ce qu'elle était comme Sol, comme Sorn, elle était pas trop privilégiée et du fait de ses fonctions, elle a accédé à une autre caste ou parce qu'elle est quand même, vous l'avez dit, elle est réifiée, hein, c'est une chose.
Oui, j'ai tendance à penser qu'elle s'est élevée par son statut, puisqu'elle ne se rebelle pas du tout. Elle ne se rebelle à aucun moment et qu'elle aspire à rester une chose, puisqu'à un moment, elle voudrait partir avec l'inspecteur. Donc, son statut, je dirais pas qu'il lui convient, mais elle aspire à rester dans le même niveau de luxe et à sûrement ne pas retourner dans des conditions abominables que je pense qu'elle a connues.
On va écouter le dernier extrait.
On your report. I was just trying
to... I know. Hey, what's your name?
Cheryl?
Yes.
Come on in here a minute, Cheryl. Come on. Shut the door. See your hands. How many times you been in trouble with the police, Cheryl?
Never.
Can't hear you.
Never.
No fresh bruises. He didn't knock you around, huh? You're a lucky girl.
He never hit me.
What?
He was a gentleman. He never abused me. I wished he'd live forever.
Unless you were fooling around.
No.
With a bodyguard, maybe?
No, I'm straight. Ask Charles. I don't cheat.
Come on.
I'd never risk my job.
When you came back, did you see the body?
Just for a moment.
Was it like it is now?
Yes, like it is.
Yeah?
Sanitation squad is here, detective.
Just a minute. What's your arrangement here?
I stay for the next tenant, if he wants me.
I may have to see you again.
All right.
Ok, Cheryl, that's all.
Voilà, avec ce dernier extrait, nous sommes avec le retour de l'inspecteur donc dans cet appartement cossu, et là, il vient interroger le témoin, c'est-à-dire Cheryl. Parlez-nous de cet extrait.
Ben, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle répond par vraiment des mots très courts. Elle n'a pas l'intention de donner plus d'informations qu'il n'en faut. Je pense qu'elle a peur à ce moment-là de ce qui peut lui arriver, et elle envisage déjà le futur, à savoir est-ce qu'elle va être gardée par le prochain locataire. Donc c'est une scène, je pense, pivot pour elle dans sa vie, à savoir j'étais bien, j'étais certes un objet, mais que va-t-il m'arriver pour le futur ?
Oui, donc elle se pose la question, et après s'être plus rapprochée du détective dans des scènes suivantes, elle envisage même, comme il a déjà été évoqué, de devenir sa chose et d'être donc dans son appartement à lui. Donc toujours de rester mobilier, mais comme elle est consciente que c'est ça le sort qui lui est réservé, à savoir soit être mobilier, soit retourner dans la pauvreté, pour elle c'est la meilleure des hypothèses, et donc elle essaye de maintenir un certain statu quo et de ne pas avoir sa situation empirée.
Oui, parce qu'elle assimile sa fonction à un emploi, my job.
Oui, c'est vraiment une partie d'elle-même. Elle se donne toute la journée. Elle ne fait que ça. Elle est enfermée. Est-ce que c'est vraiment encore un travail ? On peut se le demander.
Voilà, nous sommes avec une société qui a dégénéré. une société dans laquelle il y a une inégalité plus que criante, et avec des possédants corrompus et puis des possédés qui en sont réduits à être des choses. Hein. La réification est en marche. On ne voit pas quel avenir peut advenir.
Oui, et il y a d'ailleurs un vrai moment d'incompréhension au départ pour le spectateur, je pense, où on ne comprend pas trop pourquoi les femmes sont objets ou pas, pourquoi est-ce qu'elle répond qu'elle est mobilier. Les inégalités sont vraiment exacerbées dans le film, c'est très bien dépicté, on voit clairement un contraste. Mais c'est encore une fois, je pense, une forme de mise en garde sur les inégalités aujourd'hui.
Les inégalités de genre.
Tout à fait. Et aujourd'hui, on voit que justement, avec la crise climatique, les femmes sont de plus en plus atteintes par ces inégalités, d'autant plus qu'elles les touchent plus que les hommes. Les effets de la crise climatique les touchent plus que pour les hommes. Et en plus, la situation est empirée.
Oui, ce qui est d'autant plus terrifiant dans ce film-là, c'est que les inégalités sont acceptées. À aucun moment, aucun personnage ne souhaite se rebeller ni poser des questions quant à l'ordre établi. Et c'est, je pense, ce qui est le plus impressionnant dans cette mise en garde, c'est que ça peut arriver sans qu'aucune personne ne trouve cela choquant. C'est-à-dire que même Charles, c'est-à-dire le lobby boy, trouve ça absolument normal de rentrer dans les appartements et de frapper les femmes, puisqu'il n'y a personne pour le surveiller.
Vous avez parfaitement raison. Nous sommes avec un triste constat sur la société humaine. Merci en tout cas, Lucie Duquesne et Isabelle Fiani, de nous avoir aidés à comprendre ces moments charnières dans le film, à la fois avec le personnage de Saul et le personnage de Shirl. Et je ne peux évidemment qu'inciter les auditeurs à voir et à revoir le film et à écouter l'entièreté des trois épisodes que nous consacrons grâce à vos travaux réalisés à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, sous la direction de Diana Villegas. Merci à vous deux.
Oui, merci à vous.
Merci, madame.
Et merci à Léo Bardot, fidèle dans les enregistrements. Léo Bardot Arango. Au revoir à toutes et à tous.